Et quand ils seront à 100 000 godens de plus qu'ils ne sont aujourd'hui, ils ne gagneront à poids leur royaume. » Cette vigoureuse réponse de la pucelle d'Orléans est sortie du cœur de la France. Elle n'a jamais varié sur l'éternel ennemi, auquel la France de la Révolution a très justement ajouté le prêtre. Prenez un homme dans la rue, le premier venu, illettré, ignorant, qui sait peu ou rien du passé. Demandez-lui ce qui en tout temps a fait la ruine de ce pays. Il répondra, sans hésiter, dans son langage vif et rude, les calotins, les godems. Les grands esprits de ce temps, gens forts au-dessus du peuple, hausseront ici les épaules. Préjugés, passions, diront-ils, vieille tradition populaire. C'est la vieille, mais la bonne. Et ce sera la nouvelle. Un peu d'études en éloigne, beaucoup d'études y ramènent. Toute l'histoire est pour elle. J'ai dû m'y arrêter longtemps. Cette longueur abrégera. 1000 difficultés se trouveront résolues pour nous d'avance. Nous n'étendrons pas nos haines aux populations innocentes que nos deux ennemis ont suscitées contre nous. L'obstacle général dans notre révolution, comme dans toutes les autres, fut l'égoïsme et la peur. Mais l'obstacle spécial qui caractérise historiquement la nôtre, c'est la haine persévérante dont l'on poursuivit par toute la terre le prêtre et l'anglais. Haine funeste dans la guerre, plus fatale dans la paix, meurtrière dans l'amitié. Nous le sentons aujourd'hui. Ils ont été pour nous non la persécution seulement, mais ce qui est plus destructif, la tentation. À la foule simple et crédule, à la femme, aux paysans, le prêtre a donné l'opium du Moyen-Âge, plein de troubles et de mauvais songes. Le bourgeois a bu l'opium anglais, avec tous ses ingrédients d'égoïsme, bien-être, confortable, liberté sans sacrifice. Une liberté qui résulterait d'un équilibre mécanique, sans que l'âme y fût pour rien. La monarchie sans vertu, comme l'explique Montesquieu. Garantir sans améliorer. Garantir, surtout, l'égoïsme. Voilà la tentation. Quant à la persécution, c'est cette histoire tout entière qui doit la compter. Elle commence par une éruption de pamphlets, des deux côtés du détroit, par les faussetés imprimées. Elle continuera tout à l'heure par une émission, non moins effroyable, de fausseté d'un autre genre. Fausse monnaie, faux assignats, nul mystère. La grande manufacture est publique à Birmingham. Cette nuée de mensonges, de calomnies, d'absurdes accusations, comme une armée d'insectes immondes que le vent pousse en été, eut ce résultat d'abord d'attacher des millions de mouches piquantes au flanc de la Révolution pour la rendre furieuse et folle. Puis, d'obscurcir la lumière, de cacher si bien le jour que plusieurs qu'on avait cru clairvoyants tâtonnaient en plein midi. Les faibles qui jusque-là allaient d'élan de sentiments sans principe perdirent la voix et se mirent à demander « Où sommes-nous? Où allons-nous ?» Le boutiquier commença à douter d'une révolution qui faisait émigrer les acheteurs. Le bourgeois routinier, casanier, forcé à toute minute de quitter la case, au roulement du tambour, était excédé, irrité, voulait en finir. Tout à fait semblable en cela à Louis XVI, il eût sacrifié un intérêt, un trône s'il eût fallu, plutôt que ses habitudes. Cet état d'irritation, ce besoin de repos, de paix à tout prix, mena très loin la bourgeoisie. Et Monsieur de Lafayette, le roi de la bourgeoisie, jusqu'à une méprise sanglante qui eut sur la suite des événements une influence incalculable. On ne quitte pas aisément ses idées, ses préjugés, ses habitudes de caste. Monsieur de Lafayette, soulevé quelque temps au-dessus de lui-même par le mouvement de la Révolution, redevenait peu à peu le marquis de Lafayette. Il voulait plaire à la reine et la ramener. Il voulait complaire aussi, on ne peut guère en douter, à Madame de Lafayette, femme excellente mais dévote, livrée comme telle aux idées rétrogrades, et qui fit toujours dire la messe dans sa chapelle par un prêtre non assermenté. À ses influences intimes de famille, ajoutait sa parenté, toute aristocratique, son cousin, Monsieur de Bouillé, ses amis, tous grands seigneurs, enfin, son état-major mêlé de noblesse et d'aristocratie bourgeoise. Sous une apparence ferme et froide, il n'en était pas moins gagné, changé à la longue, par cet entourage contre-révolutionnaire. Une meilleure tête n'y eut pas tenu. La fédération du Champ de Mars mit le comble à l'enivrement. Une foule de ces braves gens, qui avaient tant entendu parler de Lafayette dans leur province, et qui avaient enfin le bonheur de le voir, donnèrent le spectacle le plus ridicule. Ils l'adoraient, à la lettre, lui baisaient les mains, les bottes. Rien de plus sensible qu'un dieu le plus irritable. Et la situation elle-même était imminemment irritante. Elle était pleine de contrastes, d'alternatives violentes. Le dieu était obligé, dans les hasards de l'émeute, de se faire commissaire de police, gendarme au besoin. Une fois, il lui arriva, n'obtenant nulle obéissance, d'arrêter un homme de sa main et de le mener en prison. La grande et souveraine autorité qui eut encouragé Lafayette et lui soutenit dans ses épreuves était celle de Washington. Elle lui manqua entièrement. Washington était, comme on sait, le chef du parti qui voulait fortifier en Amérique l'unité du gouvernement. Le chef du parti contraire, Jefferson, avait fort encouragé l'élan de notre révolution. Washington, malgré son extrême discrétion, ne cachait pas à Lafayette son désir qu'il pût enrayer. Les Américains, sauvés par la France et craignant d'être menés par elle trop loin contre les Anglais, avaient trouvé prudent de concentrer leur reconnaissance sur les individus, Lafayette, Louis XVI. Peu comprirent notre situation, beaucoup furent du parti du roi contre la France. Une chose d'ailleurs les refroidit, à quoi nous n'avions point songé, mais qui blessait à leur commerce, une décision de l'Assemblée sur les tabacs et les huiles. Les Américains, si fermes contre l'Angleterre en toute affaire d'intérêt, sont faibles et partiaux pour elle dans les questions d'idées. La littérature anglaise est toujours leur littérature. La cruelle guerre de presse que nous faisaient les Anglais influa sur les Américains et par eux sur Lafayette. Du moins, il ne le soutint pas dans ses primitives aspirations républicaines. Il ajourna ce haut idéal et se rabattit, au moins provisoirement, aux idées anglaises, à un certain éclectisme bâtard anglo-américain. Lui-même, américain d'idées, était anglais de culture, un peu même de figure et d'aspect. Pour ce provisoire anglais, pour ce système de royauté démocratique ou démocratie royale, qui, disait-il, n'était bon que pour une vingtaine d'années, il fit une chose décisive qui parut arrêter la révolution et qui la précipita. Reprenons les précédents. Dès l'hiver de 90, l'armée fut travaillée de deux côtés à la fois. D'un côté par les sociétés patriotiques, de l'autre par la cour, par les officiers qui essayèrent, comme on a vu, de persuader aux soldats qu'ils avaient été insultés dans l'Assemblée nationale. En février, l'Assemblée augmenta la solde que quelques deniers. En mai, le soldat n'avait rien reçu encore de cette augmentation. Elle devint entièrement insignifiante, étant employée presque entièrement à une imperceptible augmentation des rations de pain. Long retard et résultat nul. Les soldats se crurent volés. Dès longtemps, ils accusaient la délicatesse des officiers qui ne rendaient aucun compte des caisses des régiments. Ce qui est sûr, c'est que les officiers étaient tout au moins des comptables très négligents, très distraits, ennemis des écritures, nullement calculateurs. Dans les dernières années surtout, dans la langueur universelle de la vieille administration, la comptabilité militaire semble n'avoir plus existé. Pour citer un régiment, M. du Châtelet, colonel du régiment du roi, étant à la fois comptable et inspecteur, ne comptait ni n'inspectait. Les soldats, dit M. de Bouillet, formèrent des comités, choisirent des députés qui réclamèrent auprès de leurs supérieurs, d'abord avec assez de modération, des retenues qui avaient été faites. Leurs réclamations étaient justes, on y fit droit. Il ajoute qu'alors, ils en firent d'injustes et d'exorbitantes. Qu'en sait-il? Avec une comptabilité tellement irrégulière qu'ils pouvaient faire le calcul? Brest et Nancy furent le théâtre principal de cette étrange dispute où l'officier, le noble, le gentilhomme, était accusé comme escroc. Les officiers récriminèrent violemment, cruellement. Forts de leur position de chef et de leur supériorité dans l'escrime, ils n'épargnèrent aucune insolence aux soldats, aux bourgeois amis du soldat. Ils ne se battaient pas contre le soldat, mais ils lui lançaient des maîtres d'armes, des spadassins payés qui, sûrs de leur coup, le mettaient en demeure ou de se livrer à une mort certaine, ou de reculer, de saigner du nez, de devenir ridicule. On en trouva un à Metz, qui, déguisé par les officiers, payé par eux à temps par tête, s'en allait le soir, tantôt en garde nationale, tantôt en bourgeois, insulté, blessé ou tué. Et qui refusait de passer par cette épée infaillible était le lendemain matin proclamé, moqué au quartier, un sujet de passe-temps et de gorge chaude. Les soldats finirent par saisir le drôle, le reconnaître, lui faire nommer les officiers qui lui prêtaient des habits. On ne lui fit pas de mal. On le chassa seulement avec un bonnet de papier et son nom, Iscariote. Les officiers découverts passèrent la frontière et entrèrent, comme tant d'autres, dans les corps que l'Autriche dirigeait vers le Brabant. Ainsi s'opérait la division naturelle. Le soldat se rapprochait du peuple, l'officier de l'étranger. Les fédérations furent une occasion nouvelle où la division éclata. Les officiers n'y parurent pas. Ils se démasquèrent encore quand on exigea le serment. Imposé par l'Assemblée, retardé, prêté à contre-cœur par plusieurs avec une légèreté dérisoire, il ne fit qu'ajouter le mépris à la haine que le soldat avait pour ses chefs. Ils en restèrent avilis. Voilà l'état de l'armée et sa guerre intérieure. Et la guerre extérieure est proche. La nouvelle éclate en juillet que le roi accorde passage aux Autrichiens qui vont étouffer la révolution des Pays-Bas. Le passage ou le séjour? Qui sait s'ils ne cesseront pas? Si le beau-frère Léopold ne logera pas fraternellement à Mézières ou à Givet? La population des Ardennes, ne se fiant nullement à une armée si divisée, a bouillé qui l'a commandée, voulu se défendre elle-même. 30 000 gardes nationaux s'ébranlèrent. Ils marchaient aux Autrichiens lorsqu'on sut que l'Assemblée nationale avait refusé le passage. Les officiers, au contraire, ne cachaient nullement devant les soldats la joie que leur inspirait l'armée étrangère. Quelqu'un demandant si réellement les Autrichiens arrivaient, « Oui, dit un officier, ils viennent et c'est pour vous châtier. » Cependant, les duels continuaient, augmentaient et d'une manière effrayante. On les employait comme à Lille à l'épuration de l'armée. On profitait des disputes, des vaines rivalités qui s'élèvent entre les corps, souvent sans qu'on sache pourquoi. À Nancy, ils allaient se battre 1500 contre 1500. Un soldat se jeta entre eux, les força de s'expliquer, leur fit remettre l'épée au fourreau. On donnait des congés en foule à l'approche de l'ennemi. Beaucoup de soldats étaient renvoyés et d'une manière infamante avec des cartouches jaunes. Les choses en étaient là lorsque les régiments du roi qui étaient à Nancy avec deux autres, Maistre de Camp et Châteauvieux, un régiment suisse, s'avisa de demander ses comptes aux officiers et se fit payer par eux. Cela tenta Châteauvieux. Le 5 août, il envoya deux soldats au régiment du roi pour demander des renseignements sur l'examen des comptes. Ces pauvres Suisses se croyaient français, voulaient faire comme les Français. On leur rappela cruellement qu'ils étaient Suisses. Leurs officiers, au terme des capitulations, étaient leurs juges suprêmes à la vie et à la mort. Officiers, juges, seigneurs et maîtres, les uns patriciens des villes souveraines de Berne et Fribourg, les autres seigneurs féodaux de Vaud et autres pays sujets qui rendaient à leurs vassaux ce qu'ils recevaient en mépris de Berne. La démarche de leurs soldats leur parut trois fois coupable. Soldats, sujets et vassaux, ils ne pouvaient jamais être assez cruellement punis. Les deux envoyés furent en pleine parade, fouettés honteusement, passés par les courroies. Les officiers français regardaient et admiraient. Ils complimentèrent les officiers suisses pour leur inhumanité. Ils n'avaient pas calculé comment l'armée prendrait la chose. L'émotion fut violente. Les Français sentirent tous les coups qui frappaient les Suisses. Ce régiment de Châteauvieux était et méritait d'être cher à l'armée, à la France. C'est lui qui, le 14 juillet 89, campé au Champ de Mars lorsque les Parisiens allèrent prendre les armes aux Invalides, déclara que jamais il ne tirerait sur le peuple. Ce refus, évidemment, paralysa Besenval, laissa Paris libre et maître de marcher sur la Bastille. Il ne faut pas s'en étonner. Les Suisses de Châteauvieux n'étaient pas de la Suisse allemande, mais des hommes du pays de Vaud, des campagnes de Lausanne et de Genève. Quoi de plus français au monde? Hommes de Vaud, hommes de Genève et de Savoie, vous aviez donné Calvin, vous nous avez donné Rousseau. Que ceci soit entre nous un sceau d'alliance éternelle. Vous vous êtes déclarés nos frères au premier matin de notre premier jour, au moment vraiment redoutable où personne ne pouvait prévoir la victoire de la liberté. Les Français allèrent prendre les deux Suisses battus le matin, les vêtirent de leurs habits, les coiffèrent de leurs bonnets, les promenèrent par la ville et forcèrent les officiers suisses à leur compter à chacun 100 louis d'indemnité. La révolte ne fut d'abord qu'une explosion de bon cœur, d'équité et de patriotisme. Mais le premier pas franchi, les officiers ayant été une fois menacés, contraints de payer, d'autres violences suivirent. Les officiers, au lieu de laisser les caisses des régiments au quartier où elles devaient être d'après les règlements, les avaient placées chez le trésorier et disaient outrageusement qu'ils les feraient garder par la maréchaussée comme contre les voleurs. Les soldats, par représailles, dirent qu'ils craignaient que les officiers n'emportassent la caisse en passant à l'ennemi. Ils la remirent au quartier. Elle était à peu près vide. Nouveau sujet d'accusation. Les soldats se firent donner à compte sur ce qu'on leur devait, des sommes avec lesquelles les Français régalèrent les Suisses, et les Suisses les Français, puis les pauvres de la ville. Ces orgies militaires n'entraînèrent nul désordre grave, si nous en croyons le témoignage des gardes nationaux de Nancy à l'Assemblée. Cependant, elles avaient quelque chose d'alarmant. La situation demandait évidemment un prompt remède. Ni l'Assemblée ni Lafayette ne comprirent ce qu'il y avait à faire. Ce qu'il eût fallu voir d'abord, c'est que les règles ordinaires n'étaient nullement applicables. L'armée n'était pas une armée. Il y avait là deux peuples en face, deux peuples ennemis, les nobles et les non-nobles. Ces derniers, les non-nobles, les soldats, avaient vaincu par la Révolution. C'est pour eux qu'elle s'était faite. Croire que les vainqueurs continueraient d'obéir aux vaincus, qui les insultaient d'ailleurs, C'était une chose insensée. Beaucoup d'officiers avaient déjà passé à l'ennemi. Ceux qui restaient avaient différé et décliné le serment civique. Il était réellement douteux que l'armée pût obéir sans péril aux amis de l'ennemi. Une seule chose était raisonnable, praticable, celle que conseillait Mirabeau. Dissoudre l'armée et la recomposer. La guerre n'était pas assez imminente pour qu'on eût le temps de faire cette opération. L'obstacle, le grave obstacle, c'est que les puissants de l'époque, Mirabeau lui-même, Lafayette, les Lamets, tous ces révolutionnaires gentilshommes n'auraient guère nommé officiers que des gentilshommes. Le préjugé, la tradition, était trop fort encore en faveur de ceux-ci. On n'attribuait aucun esprit militaire aux classes inférieures. On ne devinait nullement la foule de vrais nobles qui se trouvaient dans le peuple. Ce fut Lafayette qui, par son ami, le député Emery, poussa l'Assemblée aux mesures fausses et violentes qu'elle prit contre l'armée, se faisant partie et non juge. Partie au profit de qui? De la contre-révolution. Le 6 août, Lafayette fut proposé par Emery, décrété par l'Assemblée, que pour vérifier les comptes tenus par les officiers, le roi nommerait les inspecteurs choisis parmi les officiers, qu'on affligerait aux soldats de congés infamants qu'après un jugement selon les formes anciennes, c'est-à-dire porté par les officiers. Le soldat avait son recours au roi, c'est-à-dire au ministre, officier lui-même, ou bien à l'Assemblée nationale, qui apparemment allait quitter ses travaux immenses pour se faire juge des soldats. Ce décret n'était qu'une arme qu'on se ménageait. On avait hâte de frapper un coup. Rendu le 6, il fut sanctionné le 7 par le roi. Le 8, M. de Lafayette écrivait à M. de Bouillé qu'il devait frapper le coup. C'est le mot même dont il se sert, qu'il répète plusieurs fois. M. de Lafayette n'était nullement sanguinaire. Ce n'est pas son caractère qu'on attaque ici, mais bien son intelligence. Il s'imaginait que ce coup violent mais nécessaire allait pour jamais rétablir l'ordre. L'ordre rétabli permettra enfin de faire agir et fonctionner la belle monarchie constitutionnelle, la démocratie royale qu'il regardait comme son œuvre, aimait et défendait avec l'amour propre d'auteur. Et ce premier acte, si utile au gouvernement constitutionnel, allait être accompli par l'ennemi de la Constitution, M. de Bouillé, qui avait différé tant qu'il avait pu de lui prêter serment et qui lui gardait rancune, par un homme personnellement irrité contre les soldats qui tout récemment n'avaient tenu compte de ses ordres, et l'avait forcé de payer une partie de ce qu'on leur devait. Était-ce bien là l'homme calme, impartial, désintéressé, à qui l'on pouvait confier une mission de rigueur? N'était-il pas à craindre qu'elle ne fût l'occasion d'une vengeance personnelle? Monsieur de Bouillé dit lui-même qu'il avait un plan secret. Laisser se désorganiser la plus grande partie de l'armée, tenir à part et sous une main ferme quelques corps, surtout étrangers. Il est clair qu'avec ces derniers, on pouvait accabler les autres. Pour employer un tel homme en toute sûreté, sans se compromettre, Lafayette s'adressa directement aux Jacobins. Il effraya leur chef du péril d'une vaste insurrection militaire. Chose curieuse, les députés jacobins, dont les émissaires n'avaient pas peu contribué à soulever le soldat, n'en votèrent pas moins contre lui à l'Assemblée nationale. Tous les décrets répressifs furent votés à l'unanimité. La cour fut tellement hardie qu'elle ne craignit pas de confier à Bouillé le commandement des troupes sur toute la frontière de l'Est, depuis la Suisse jusqu'à la Sambre. Ces troupes, il est vrai, n'étaient guère sûres. Il ne pouvait bien compter que sur 20 bataillons d'infanterie, allemands ou suisses. Mais il avait beaucoup de cavalerie. 27 escadrons de hussards allemands et une 33 escadrons de cavalerie française. De plus, ordre à tous les corps administratifs de l'aider de toute façon, de l'appuyer spécialement par la garde nationale. Monsieur de Lafayette, pour mieux assurer la chose, écrivit fraternellement à ses gardes nationales et leur envoya deux de ses aides de camp. L'un se fit aide de camp de Bouillé, l'autre travailla d'une part à endormir la garnison de Nancy, d'autre part à rassembler les gardes nationales qu'on voulait mener contre elle. Bouillé, qui nous explique lui-même son plan de campagne, laisse entrevoir beaucoup de choses lorsqu'il avoue qu'il voulait par Montmédy s'assurer une communication avec Luxembourg et l'étranger. Dans sa lettre du 8 août, Lafayette disait à Bouillé que pour inspecteur des comptes, on enverrait à Nancy un officier, M. de Malseigne, qu'on faisait venir tout exprès de Besançon. C'était un choix fort menaçant. Malseigne passait pour être le premier crâne de l'armée, un homme fort brave, de première force pour l'escrime, très fougueux, très provoquant. Étrange vérificateur. Il y avait bien à croire qu'il solderait en coup d'épée. Notez qu'on l'envoyait seul, comme pour signifier un défi. Cependant, les soldats avaient écrit à l'Assemblée nationale. La lettre fut interceptée. Ils envoyèrent quelques-uns des leurs pour emporter une seconde, et Lafayette fit arrêter, et la lettre et les porteurs dès qu'ils arrivèrent à Paris. Au contraire, on présenta à l'Assemblée. On lui lut l'accusation portée contre les soldats par la municipalité de Nancy, toute dévouée aux officiers. Emery soutint hardiment que l'affaire de Châteauvieux, du 5 et 6 août, avait eu lieu après qu'on eût proclamé le décret de l'Assemblée, qu'elle avait rendu le 6. Cette affaire, exposée ainsi, sans faire mention de sa date, semblait une violation du décret, non violé puisqu'il était inconnu à Nancy et qu'il fut fait à Paris le même jour. De même, on présenta aussi comme violent le décret du 6, une insurrection des soldats de Metz qui avait eu lieu plusieurs jours avant le 6. Au moyen de cette exposition artificieuse et mensongère, on tira de l'Assemblée un décret passionné, indigné, qui avait déjà le caractère d'une condamnation des soldats. Ils devaient, d'après ce décret, déclarer aux chefs leur erreur et leur repentir, même par écrit s'il exigeait, c'est-à-dire remettre à leur adverse parti des preuves écrites contre eux. Décrété à l'unanimité, nulle observation. Tout presse, tout brûle, dit Emery. Il y a péril dans le plus léger retard. Le 26, Malsaigne arrive à Nancy, armé du décret. L'ordre y était rétabli. Malsaigne trouble, irrite, embrouille. Au lieu de vérifier, il commence par injurier. Au lieu de s'établir pacifiquement à l'hôtel de ville, il s'en va au quartier des Suisses et refuse de leur faire droit pour ce qu'il réclamait des chefs. « Jugez-nous !» lui criait-il. « Il veut sortir, on l'en empêche. » Alors il recule trois pas, tire l'épée, blesse plusieurs hommes. L'épée casse. Il en saisit une autre et sort, sans trop se presser à travers cette foule furieuse qui pourtant respecte ses jours. On avait ce qu'on voulait, une belle provocation. Tout ce qui pouvait paraître une violation, un mépris des décrets de l'Assemblée. Les Suisses étaient compromis de la manière la plus terrible. Bouillé, pour leur donner lieu d'aggraver leur faute, leur fit ordonner de sortir de Nancy. Sortir, c'était se livrer, non à Bouillé seulement, mais à leur chef, à leur juge, ou plutôt à leur bourreau. Ils savaient parfaitement les supplices effroyables que leur gardaient leurs officiers. Ils ne sortirent point de la ville. Bouillé n'avait plus qu'à agir. Il choisit, rassembla 3000 hommes d'infanterie, 1400 cavaliers, tous ou presque tous allemands. Pour donner un air un peu plus national à cette armée d'étrangers, les aides-de-camp de Lafayette couraient la campagne et tâchaient d'entraîner les gardes nationaux. Ils en amenèrent 700, aristocrates ou faillettistes, qui suivirent Bouillé et se montrèrent très violents, très furieux. Mais la masse des gardes nationaux, environ 2000, ne se laissèrent pas tromper. Ils comprirent parfaitement que le côté de Bouillé ne pouvait pas être celui de la Révolution. Ils se jetèrent dans Nancy. Les carabiniers de Lunéville, où s'était réfugié Malsaigne, ne se soucièrent pas non plus de participer à l'exécution sanglante que l'on préparait. Eux-mêmes, ils livrèrent Malsaigne à leurs camarades. Ce foudre de guerre fit son entrée à Nancy en pantoufles, robe de chambre et bonnet de nuit. Bouillé eut une conduite étrange. Il écrit à l'Assemblée qu'il l'a pris de lui envoyer deux députés qui puissent l'aider à arranger les choses. Et le même jour, sans attendre, il part pour les arranger lui-même à coups de canon. Le 31 août, le jour même où le massacre se fit, on lisait à l'Assemblée cette lettre pacifique. Emery et Lafayette essayaient de faire décréter que l'Assemblée approuve ce que Bouillé fait et fera. Une députation de la garde nationale de Nancy se trouva là heureusement pour protester. Et Barnave proposa, fit adopter une proclamation ferme et paternelle où l'Assemblée promettait de juger impartiellement. Juger, c'était un peu tard. L'une des parties n'était plus. Bouillé, parti de Metz le 28, le 29 de Toul, était le 31, fort près de Nancy. Trois députations de la ville, à 11h, à 3, à 4, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent ses conditions. Les députés étaient des soldats et des gardes nationaux, Bouillé dit de la populace parce qu'ils n'avaient pas d'uniforme. Ils avaient mis à leur tête des municipaux tout tremblants qui, arrivés près de Bouillé, ne voulurent pas retourner et rester avec lui, l'autorisant encore par leur présence, par la crainte qu'il témoignait de revenir à Nancy. Les conditions du général étaient de n'en faire aucune. D'exiger d'abord que les régiments sortissent, remissent leur otage Malsaigne, et livrassent, chacun, quatre des leurs qui seraient jugés par l'Assemblée. Leur faire choisir, trahir, livrer eux-mêmes quelques-uns de leurs camarades, cela était dur, déshonorant pour les Français, mais horrible pour les Suisses, qui savaient parfaitement qu'ils n'iraient jamais au jugement de l'Assemblée, qu'en vertu des capitulations, leur chef les réclamerait pour être pendus, roués vifs ou mourir sous le bâton. Les deux régiments français, du roi et maître de camp, se soumirent, rendirent Malsaigne, commencèrent à sortir de la ville. Resta le pauvre Châteauvieux, dans son petit nombre, Deux bataillons seulement. Quelques-uns des nôtres pourtant rougirent de l'abandonner. Beaucoup de vaillants gardes nationaux de la banlieue de Nancy vinrent aussi, par un instinct généreux, se ranger auprès des Suisses et voulurent partager leur sort. Tous ensemble, ils occupèrent la porte de Stainville, la seule qui fut fortifiée. Si Bouilly eût voulu épargner le sang, il n'avait qu'une chose à faire, s'arrêter un peu à distance, attendre que les régiments français fussent sortis, puis faire entrer quelques troupes par les autres portes et placer ainsi les Suisses entre deux feux. Il les aurait eus sans combat. Mais alors où était la gloire? Où était le coup imposant que la cour et Lafayette avaient attendu de Bouilly? Celui-ci raconte lui-même deux choses qui sont contre lui. D'abord, qu'il avança jusqu'à 30 pas de la porte, c'est-à-dire qu'il mit en face, en contact, les ennemis, des rivaux, des Suisses et des Suisses, qui ne pouvaient manquer de s'injurier, se provoquer, se renvoyer le nom de traître. Deuxièmement, il quitta la tête de la colonne, pour parler à des députés qu'il eût pu fort bien faire venir. Son absence eut l'effet naturel qu'on devait attendre, on s'injuria, on cria, enfin on tira. Ceux de Nancy disent que tout commença par les hussards de Bouilly. Bouilly accuse les soldats de Châteauvieux. On a peine à comprendre pourtant comment ceux-ci, en si grand danger, s'avisèrent de provoquer. Ils voulaient tirer le canon. Un jeune officier breton, des îles, aussi hardi qu'obstiné, s'assoit sur la lumière même. Renversé de là, il embrasse le canon, grave incident qui permettait aux gens de Bouilly d'avancer. On ne put l'arracher du canon qu'à grands coups de baïonnette. Bouilly accourt, se rend maître de la porte, lance ses hussards dans la ville à travers une fusillade très nourrie qui partait de toutes les fenêtres. Ce n'était pas évidemment Châteauvieux seul qui tirait, ni seulement les gardes nationaux de la banlieue, mais la plus grande partie de la population pauvre s'était déclarée pour les Suisses. Cependant, les officiers des deux régiments français suivirent l'exemple de Lesile et avec plus de bonheur. Ils parvinrent à retenir les troupes dans les casernes. Dès lors, Bouilly ne pouvait manquer de venir à bout de la ville. Le soir, l'ordre était rétabli. Les régiments français partis, les Suisses de Châteauvieux, moitié tués, moitié prisonniers. Ceux qui ne se rendirent pas de suite furent trouvés les jours suivants égorgés. 3 jours après, on en prit encore un, qu'on coupa en morceaux dans le marché. 10 000 témoins l'ont pu voir. Après le massacre, la ville eut un spectacle plus affreux encore, un supplice immense. Les officiers suisses ne se contentèrent pas de décimer ce qui restait de leurs soldats. Il y eut trop peu de victimes. Ils en firent pendre 21. Cette atrocité dura tout un jour, et pour couronner la fête, le 22e fut roué. L'ignoble, l'infâme pour nous, c'est que ces Néron ayant condamné encore 50 Suisses aux galères, probablement tout ce qui restait en vie, nous reçûmes ces galériens. Nous eûmes la noble mission de les mener et de les garder à Brest. Ces gens, qui n'avaient pas voulu tirer sur nous le 14 juillet, eurent pour récompense nationale de traîner le boulet en France. Le même jour, 31 août, nous l'avons dit, l'Assemblée avait fait la promesse pacifique d'une justice impartiale. Antérieurement, elle avait voté 2 commissaires pacificateurs. Bouilly, qui les demandait, ne les avait pas attendus. Il avait vidé le procès par l'extermination de l'une des deux parties. L'Assemblée, apparemment, va désapprouver Bouilly. Au contraire, l'Assemblée, sur la proposition de Mirabeau, remercie solennellement Bouilly et approuve sa conduite. Au vote des récompenses aux gardes nationaux qui l'ont suivi, aux morts des honneurs funèbres dans le champ de Mars, des pensions à leur famille. Louis XVI ne montra point dans cette occasion l'horreur du sang qui lui était ordinaire. Le vif désir qu'il avait de voir l'ordre rétabli fit qu'il eut, de cette affligeante mais nécessaire affaire, une extrême satisfaction. Il remercia Bouilly de sa bonne conduite et l'engagea à continuer. Cette lettre, dit Bouilly, pas la bonté, la sensibilité de son cœur. Ah, dit l'éloquent Loustalot, ce n'est pas là le mot d'Auguste, quand, au récit du sang versé, il se battait la tête au mur et disait « Varus, rends-moi mes légions !» La douleur des patriotes fut grande pour cet événement. Loustalot n'y résista pas. Ce jeune homme qui, sorti à peine du barreau de Bordeaux, était devenu en 2 ans le premier des journalistes, le plus populaire à coup sûr, puisque ses révolutions de Paris se tirèrent quelquefois à 200 000 exemplaires, Loustalot prouva qu'il était le plus sincère aussi de tous. Celui qui portait le plus vivement la liberté au cœur, vivait d'elle, mourait de sa mort. Ce coup lui parut ajourné pour longtemps, pour toujours l'espérance de la patrie. Il écrivit sa dernière feuille, pleine d'éloquence et de douleur, une douleur mâle, sans larmes, mais d'autant plus âpre de celle auquel on ne survit pas. Quelques jours après le massacre, il mourut, à l'âge de 28 ans.